je sais pas, un truc comme ça. Merci, super. Waouh, bon. La transition n'est pas compliquée parce que je trouve que ça engage merveilleusement le message, ce qu'on vient de vivre et d'entendre. Ce message commençait par plus de Jésus dans ma vie, plus de Dieu dans ma vie, plus du Saint-Esprit dans ma vie. Vous imaginez si d'un coup, là, le Seigneur nous saisissait tous et qu'on se mettait à partir comme ça dans la louange, dans le témoignage, sans pouvoir s'arrêter, avoir des gens guéris dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. On verrait des réconciliations entre frères et ennemis. On serait hyper motivé pour la mission parce qu'on aurait tellement reçu de la part de Dieu que ça déborderait naturellement. Vous imaginez ça ? Moi, en tout cas, après la louange qu'on vient de vivre, je peux l'imaginer. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'université d'Asbury, dans le Kentucky, qui a vécu ce que beaucoup considèrent comme un réveil spirituel. Un réveil spirituel, c'est un moment où Dieu intervient dans un lieu donné, d'une manière toute particulière, et il ramène les gens à lui. D'un coup, il y a comme une consécration nouvelle, il y a comme une intimité nouvelle. L'Esprit Saint saisit les gens et ils se mettent à témoigner de ce que Dieu est en train de faire maintenant dans leur vie, pas il y a 20 ans, pas il y a 15 ans, là tout de suite, pendant le temps de louange, pendant la prédication, pendant le témoignage de quelqu'un d'autre. Un peu comme à la Pentecôte, où les disciples, nous dit le livre des Actes, parlaient en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer et disaient les œuvres grandioses de Dieu. On nous parle aussi dans le livre des Actes de la stupéfaction et de la perplexité des gens qui ont assisté à cette effusion de l'Esprit-Saint sur les disciples. Et comme chrétiens, je crois qu'on aspire à vivre quelque chose de ce genre. Pourquoi ? Eh bien, un peu pour ce qu'on a dit ce matin, parce qu'il y a quelque chose de céleste là-dedans. Il y a ce moment où, effectivement, les cieux et la terre se rencontrent. On a envie de voir le royaume de Dieu descendre sur la terre. On a envie de goûter dès maintenant aux merveilles de la cité céleste. Et on a vu ce matin que c'est possible. On a envie de ça parce qu'on sait bien que nous ne sommes pas de ce monde. Quand on regarde le monde autour de nous, on s'en rend bien compte, il vit selon des valeurs qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont plus les nôtres. Nous sommes étrangers et résidents temporaires sur la terre. C'est l'Épître aux Hébreux qui le dit, chapitre 11, verset 13. Mais même si l'Épître aux Hébreux ne le disait pas, je crois qu'on s'en rend compte dans notre vie quotidienne. Et parfois, ça pèse un peu. Ça pèse un peu d'être loin de la maison. Alors, dans sa grâce, Dieu permet qu'on ait, dès ici-bas, les prémices du royaume, qu'on en goûte quelque chose, comme on vient d'en goûter quelque chose, peut-être, maintenant. Parfois, ce sont des petites choses toutes simples, ou qui paraissent toutes simples. C'est un frère qui vient nous demander pardon pour quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui vient du royaume. C'est la prière d'un autre qui nous touche, qui vient guérir quelque chose en nous. Et puis, parfois, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes et ça vient changer radicalement notre vie, fondamentalement. Parfois, ça nous arrive à nous, personnellement, dans notre relation avec le Seigneur, ça nous concerne nous seulement, et parfois, c'est à l'échelle de toute une communauté que ça se passe, comme à Asbury, et ça se répand comme une traînée de poudre avec des gens qui ont soif de Dieu et qui arrivent de partout. Et quand ça arrive comme ça, alors on appelle ça un réveil. Seulement un réveil, ça n'arrive pas tout à fait n'importe où, en vrai. Alors, on ne peut pas provoquer un réveil, on ne peut pas le créer. C'est l'œuvre de Dieu. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. On ne peut que s'en émerveiller. C'est tant mieux, parce que si on pouvait le créer, on se dirait qu'on est très fort et que c'est super, parce qu'on est, vraiment des gens bien. Mais non, on ne peut pas le créer. C'est l'œuvre de Dieu. Néanmoins, c'est vrai aussi que les réveils n'arrivent pas tout à fait n'importe où. si vous aspirez à ce que la flamme de l'Esprit-Saint soit ravivée en vous, si nous aspirons tous ensemble en communauté à ce que la flamme de l'Esprit-Saint soit ravivée parmi nous, il y a un passage qui semble obligé. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Mais avant, je vais prier. Seigneur, nous nous apprêtons à ouvrir ta parole. Et nous te demandons, dans le même temps, d'ouvrir nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, pas seulement de notre intelligence, pour comprendre ce que tu as à nous dire, parce que ta parole est spirituelle. Nous avons besoin, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous assiste pour que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire en communauté et nous dire aussi individuellement à chacun de nous, parce que tu veux parler à chacun de nous, Seigneur. Je te prie pour que tu ouvres notre entendement. Nous sommes venus ce matin pour ça, Seigneur, pour entendre ta parole. On le sait ou on ne le sait pas, mais on est venus pour ça, pour t'adorer, pour t'entendre nous parler. Et nous te prions pour qu'il en soit ainsi ce matin. Déverrouille nos cœurs, Seigneur. Déverrouille notre esprit pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner. Amen. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Luc. Au chapitre 3. Dans le Nouveau Testament, Évangile de Luc, chapitre 3. Cette prédication, c'est la première d'une série sur le thème « Bâtir sur du solide ». Si vous êtes dans un groupe de maison, vous avez normalement déjà reçu l'ensemble de cette étude, en tout cas de ce parcours qu'on va vivre ensemble dans les groupes de maison, qui va nous emmener jusqu'à Pâques. Il y a, un document qui vous est personnel, sur lequel vous pouvez méditer un peu chaque jour. Et puis l'idée, c'est qu'en groupe de maison, on puisse échanger autour de ce qui a été compris, vu, vécu dans nos temps personnels. Et chacune des semaines est initiée par une prédication qui vient ouvrir la semaine. Donc c'est dans ce cadre-là que je lis ce passage et que je prêche ce matin. Luc chapitre 3. La 15e année du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe son frère tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconitide, Lysanias tétrarque de la Bilène et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. « Celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés, et tous verront le salut de Dieu. » Il disait donc aux foules qui venaient pour recevoir de lui le baptême, « Vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes du changement radical. Ne commencez pas à vous dire, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Maintenant déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de beaux fruits, est coupé, et jeté au feu. » Les foules l'interrogeaient. « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondait « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des collecteurs des taxes aussi vinrent pour recevoir le baptême. Ils lui demandèrent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi l'interrogeaient « Et nous ?» Que devons-nous faire ? Il leur dit, ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. Alors, les premiers versets de ce texte nous situent la scène dans l'espace et le temps. Ce n'est pas bien compliqué. On comprend vite qu'on est en terre d'Israël, au 1er siècle, juste avant que Jésus n'entre de plein pied dans son ministère public. Et on s'apprête à sortir là de 400 ans de silence prophétique. Entre le dernier prophète de l'Ancien Testament et l'arrivée de Jean, à qui Dieu va parler, il y a eu 400 ans qui se sont écoulés, 400 ans de silence. Dieu vient parler à Jean. Jean, c'est le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Élisabeth, c'est la parente de Marie, la mère de Jésus, probablement sa cousine. Il a environ 30 ans et il va se mettre à prophétiser. Et il le fait de manière un peu étonnante d'ailleurs, parce que dans l'Ancien Testament, quand un prophète ouvre la bouche, c'est pour ramener le peuple à la loi. Le peuple a péché, il s'est gravement éloigné de Dieu, il s'est éloigné des commandements, il a bâti des autels à des divinités étrangères, autrement dit à des démons. Et le prophète arrive parce que Dieu lui a parlé pour lui dire « Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Il faut revenir à moi. » Alors, le prophète exhorte le peuple de revenir au commandement. Si le peuple le fait, eh bien, ça se passe bien. Ce qui donne cette situation un peu étrange, peut-être pour nous, où on voit des prophètes qui prophétisent des choses qui n'arrivent pas, et pourtant, ce ne sont pas des faux prophètes. Ces choses n'arrivent pas parce que le peuple s'est repenti, c'est ce qui se passe à Ninive, par exemple, ce qui fait que Jonas est bien vert à la fin de son livre, parce qu'il a prophétisé quelque chose, et cette chose n'arrive pas. « j'en étais sûr, dit-il, que tu allais leur pardonner. » Jean a un message un peu différent. Il n'appelle pas le peuple à revenir à la loi. Alors évidemment, il appelle à la repentance, et on va en reparler. Mais au lieu d'attirer l'attention vers la loi, au lieu de porter le regard en arrière, quelque part, il attire l'attention vers celui qui vient. Il porte le regard en avant. Les versets suivants du passage qu'on vient de lire, là, les versets 15 à 17, disent « Moi, je vous baptise d'eau, c'est Jean qui parle. » Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main. Il va nettoyer son aire. Il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Baptisé dans l'Esprit Saint et le feu. Il y a un grand événement là qui est sur le point d'arriver. Quelque chose que les prophètes ont annoncé comme un événement à venir, mais là, c'est pour maintenant. Ça arrive maintenant. Jean l'annonce. Il est là, celui qui vient. Il s'apprête à venir. On est donc à un tournant dans l'histoire du salut parce que celui que les prophètes ont annoncé arrive. Et autour de lui, autour de celui qui vient, le monde va maintenant s'organiser entre ceux qui croiront en lui et ceux qui le rejetteront. Celui qui vient va séparer les brebis et les boucs. Celui qui vient va être la pierre de l'angle pour les uns, la pierre de l'angle pour la communauté des croyants sur laquelle tout l'édifice est bâti, la pierre de l'angle pour nos vies personnelles sur laquelle nous construisons notre vie. Et il va être aussi pierre d'achoppement pour les autres, cette pierre sur laquelle on trébuche, sur laquelle on tombe. Celui qui vient, évidemment, c'est Jésus. Et depuis sa venue sur terre, tous ceux qui entendent parler de Jésus, tous ceux à qui la bonne nouvelle est annoncée, sont mis dans la situation radicale du discernement. On ne peut plus tergiverser. Jésus est venu. Et Jésus, ou on le suit, ou on lui tourne le dos. C'est pourquoi Jésus baptise effectivement dans l'Esprit Saint et le feu. L'Esprit Saint, c'est la marque du chrétien, c'est par lui que nous sommes scellés en Christ, c'est lui qui nous fait dire « Abba Père », c'est lui qui nous donne cet esprit d'adoption. Et le feu dans lequel nous sommes baptisés, c'est un feu purificateur. Mais attention, parce qu'effectivement, Jésus vient comme un feu, et ce feu, de deux choses l'une, où il nous purifie, où il nous consume. où nous sommes ce bon blé qui est recueilli dans la grange, où nous sommes la paille brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors on se dit, c'est dur quand même, hein ? C'est quand même dur comme discours, ça. C'est pas hyper nuancé, disons. C'est un peu ou tout l'un ou tout l'autre, on ou off. On aimerait un peu de nuance. On vit, je crois, dans une société de la nuance. On aime bien les zones de gris. On aime bien pouvoir discuter. On aime bien pouvoir négocier. Les choses aussi radicales comme ça nous mettent mal à l'aise. Pourtant, si on relit les évangiles, je crois qu'on peut constater que Jésus ne discute effectivement pas très longtemps avec les personnes qui envisagent de le suivre. Ça ne dure pas longtemps. En quelques phrases, l'affaire est pliée. Il n'insiste pas longtemps avec ceux qui tergiversent. Le jeune homme riche repart tout triste et Jésus ne lui court pas après. Jésus va dire des choses comme « Quiconque met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. » C'est dur comme phrase. C'est pas mal quand même de mettre la main à la charrue. C'est pas mal, c'est mieux que rien, non ? On met la main à la charrue, oui, mais on regarde en arrière. Si on regarde en arrière, on fait un sillon qui va toute traviole. Et c'est pas ça que Jésus souhaite. Jésus veut un sillon droit, clair. Jésus dit des choses comme que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du malin. Il n'y a rien entre oui et non. Ben, quand il s'agit de savoir si on le suit ou non, il n'y a pas grand-chose entre oui et non. Il n'y a rien entre oui et non. Quand il s'agit de savoir si on le suit ou non, on ne peut pas dire que Jésus soit fan des grandes palabres et des discussions sans fin. Alors c'est vrai, il y a une radicalité dans l'engagement que demande Jésus. Il y a une radicalité. Et on se dit, mais c'est trop dur. C'est trop fort, c'est trop radical, il demande trop, il exige trop. Et puis après, on peut se rappeler que le premier à avoir été radical dans son engagement, c'est pas nous, c'est lui. Lui, il a été radical dans son engagement pour nous. Lui, il est mort pour nous. Il est mort pour nous à la croix. Il a porté nos péchés à la croix pour que nous, nous puissions vivre libres. Ça, c'est radical. Mais il y a même plus radical que ça, c'est qu'il est mort pour nous à la croix, alors que nous, nous le méprisions. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que nous, on ne le considérait pas. Alors que nous, nous le rejetions. Et il est mort quand même pour nous à la croix. Ça, c'est encore plus radical. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous a pas un peu sauvés. Il s'est donné tout entier jusqu'au bout du bout de ce qui pouvait se faire. Il n'est pas mort à moitié. Et il nous demande, à nous, un engagement radical. Et quand on y pense, qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande de reconnaître ce qu'il est, ce qui semble être un peu, presque un minimum, je dirais. Il nous demande de le reconnaître comme ce qu'il est, c'est-à-dire comme notre Seigneur, et comme notre sauveur. Et ce n'est pas une exigence, ça. C'est ce qu'il est. Il nous demande juste de reconnaître ce qu'il est, déjà. Qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, ça ne change rien à ce qu'il est. Mais il nous demande de le reconnaître. Et puis, il nous demande aussi cette chose un peu mystérieuse, parfois, qui est le baptême. Il nous demande de nous faire baptiser. Lui est mort à la croix, et il nous demande de descendre dans les eaux du baptême. Quand on voit le contraste, on se dit qu'en termes d'engagement radical, on a encore de la marge. Et donc, le Messie arrive dans notre texte. Jésus arrive. Et Jean est là pour exhorter le peuple à préparer le terrain à sa venue, à préparer le chemin du Seigneur. D'une certaine manière, Jean nous dit que Jésus n'arrive pas n'importe où. Par exemple, Jésus n'arrive pas dans les cœurs orgueilleux. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien faire pour les cœurs orgueilleux, mais il n'arrive pas dans les cœurs orgueilleux. Il n'arrive pas chez ceux qui se croient justes. « Je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs », dit Jésus. Il n'arrive pas chez ceux qui ne se reconnaissent pas nécessiteux. Et c'est pour ça que Jean proclame, nous dit le texte, un baptême de changement radical. D'autres traductions disent un baptême de repentance. Un baptême de repentance. Alors, on va voir s'il y en a qui me suivent sur les réseaux sociaux. Repentance, c'est quoi en grec ? Quelqu'un le sait-il ? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent ? J'ai entendu, pardon ? Oui, alors ça, c'est la manière de le traduire en français, disons. Il y a cette idée, ouais. Mais en grec, le terme grec. Oui, mais toi, tu triches, t'es ma femme. C'est vrai, mais tu ne me suis pas sur les réseaux. Donc, du coup, métanoïa, effectivement. Métanoïa. Alors, on va essayer, on va continuer pour voir. Vous vous rappelez pas de ce que c'est, mais qu'est-ce que ça veut dire, métanoïa ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Je fais des tests pour voir si je sers à quelque chose sur les réseaux, là. Non ? Ouais, pas mal. Bien. C'est ça. Merci, ça me fait plaisir. Je vais persévérer, du coup. Tu viens d'y aller, non ? Non ? T'es pas dessus ? Bon, OK. Oui. Noéo, c'est un verbe, ça veut dire percevoir, ça veut dire penser, effectivement. Et puis, il y a ce préfixe méta qui est au-delà. Comme métaphysique, c'est ce qui est au-delà du physique. Il y a le physique et la métaphysique, c'est ce qui est au-delà de ça, ce qui dépasse ça. Métanoïa, c'est ce qui dépasse nos propres pensées. C'est quelque chose qui dépasse vraiment nos propres pensées. Autrement dit, c'est un changement radical de manière de penser. C'est confier ton entendement à quelque chose qui te dépasse complètement. C'est s'ouvrir à rien de moins que Dieu lui-même et qui vient se manifester ici-bas au travers de celui qui vient, le Messie, Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair. C'est finalement reconnaître que cette parole de Dieu dépasse ton propre entendement, au-delà de mes pensées. Que cette parole de Dieu, elle vaut mieux que ta propre parole. Et donc, toi qui te croyais juste jusqu'ici, parce que tu te jugeais toi-même selon ta propre échelle de valeur, tu te reconnais à présent pécheur, parce que ça y est, tu as fait face à un Dieu saint, un Dieu qui est sans la moindre obscurité. Et franchement, quand tu regardes le contraste entre lui et toi, tu vois bien que tu es pas de taille, tu fais pas le poids. Je me rappelle d'un jeune, il y a une vingtaine d'années, que j'avais croisé dans une convention chrétienne, et je l'avais littéralement croisé. Il y a des moments comme ça où c'est bizarre dans la vie, on se rappelle d'un truc. Il arrivait avec un groupe d'amis à lui, et on s'est vraiment croisé. C'est-à-dire, je n'ai pas discuté avec lui ni rien, mais j'ai entendu une phrase qu'il a dit. Il était en train d'expliquer à ses amis ce qu'il venait de vivre avec le Seigneur dans cette convention, et je l'ai entendu dire « Le Seigneur m'a retourné le cerveau comme une crêpe. » Le Seigneur m'a retourné le cerveau comme une crêpe. Ça m'a marqué, je n'ai jamais oublié cette phrase. C'est une manière un peu particulière d'expliquer les choses, mais c'est quand même un peu ça. Vous allez tête baissée dans un sens, le Seigneur vient à votre rencontre, et d'un coup, vous prenez une toute autre direction. Métanoïa. En grec, retournement de cerveau comme une crêpe en jeune, repentance en plus classique. Alors ensuite, dans ce texte, il se passe quand même un truc assez exceptionnel, je trouve. Au verset 7, on voit que des foules arrivent pour se faire baptiser. Vous imaginez ? Des foules arrivent pour se faire baptiser. Mais moi, je vois des foules qui arrivent pour se faire baptiser et je me dis, mais alléluia, amen, super, génial, venez. Remplissons le baptistère. Là, il n'y avait même pas besoin, ils étaient à côté du Jourdain, c'était impeccable. Et Jean, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur dit, vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir ? Ça, c'est de l'accueil. Hein. Si vous voulez vous faire baptiser, venez me voir à la fin du culte. Je vais vous répondre bibliquement, ça va vous faire tout drôle. Hein. On comprend en tout cas là que Jean n'est pas très intéressé par le fait de remplir les bancs de l'Église. Ça ne l'intéresse pas de faire du chiffre. Jean est intéressé par la métanoïa. Il est intéressé par des cœurs bouleversés qui reconnaissent leurs péchés. Il est intéressé par des cœurs qui ne s'appuient pas sur leurs propres mérites. Il est intéressé par des cœurs qui ne se justifient pas eux-mêmes, parce que qui se justifie soi-même n'est pas justifié par Dieu. Il est intéressé par des cœurs qui ne s'appuient pas sur l'héritage spirituel dont ils sont issus. Il leur dit, ne commencez pas à dire, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ce n'est pas ton ascendance qui va te sauver. Jésus ne peut pas arriver dans des cœurs qui pensent comme ça. Ce n'est pas la peine d'aller au baptême avec un cœur comme ça, ça ne sauve pas. Jésus veut des cœurs contrits, qui se repentent de leurs péchés. Et ces cœurs-là portent du fruit, nous dit Jean, parce que ces cœurs-là ne se conforment déjà plus au monde actuel. Ils s'ajustent aux valeurs du royaume de Dieu. Le ciel et la terre se rencontrent. Alors, à quoi ça peut ressembler un tel cœur ? Jean répond à ça. Il dit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même. Et puis, il y en a qui veulent savoir ce qu'il en est pour eux. Peut-être que c'est notre cas d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il en est pour moi exactement ? Et là, on voit deux groupes qui s'approchent. Il y a des collecteurs d'impôts, puis il y a des soldats. Aux collecteurs d'impôts, il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Ça semble un minimum d'ailleurs. Aux soldats, il leur dit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Ça me semble même un peu faiblard, pour être franc. Un petit peu faible. Et j'ai l'impression que quand on va un peu plus loin dans le Nouveau Testament, quand on va déjà à un moment où Jésus est là, pleinement présent, c'est un peu plus fort que ça encore. On va se pencher un peu sur les collecteurs d'impôts. On va se pencher sur eux parce qu'ils sont souvent donnés en exemple, en mauvais exemple, dans le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tout à fait n'importe qui. Ce sont des Juifs qui collectent des impôts auprès d'autres Juifs. Jusqu'ici, tout va à peu près bien, on comprend à peu près la logique. En France, moyen, mais globalement, on comprend quand même. Sauf qu'ils le font au profit de l'envahisseur romain. Alors ça passe quand même vachement moins bien. Ce sont des collabos. Les Juifs et les Romains, ils ne sont pas copains, sauf quand il s'agit de crucifier Jésus, où là, les pharisiens arrivent à se mettre d'accord à peu près avec les Romains, mais en dehors de ça, ils ne sont pas copains du tout. Les Juifs voulaient mettre les Romains dehors, et c'est d'ailleurs ce qu'ils espéraient de la venue d'un Messie. Ils espéraient un libérateur militaire, un chef de guerre qui allait les libérer non pas tant du péché, parce que le péché, ça va, on s'en accommode à peu près, mais de l'envahisseur romain. Eh bien, les collecteurs d'impôts, non seulement ils travaillent avec l'ennemi, mais en plus, ils tentent quand même un petit peu à se servir au passage et à s'enrichir de leur activité. Alors, à quoi ça ressemble un collecteur d'impôts qui se repent ? Eh bien, on va aller le lire en Luc 19. Voilà à quoi ressemble un collecteur d'impôts qui se repent. Je vais lire et commenter brièvement les versets 1 à 10. Luc 19. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes, c'est le pire des pires, lui, c'est le chef des horribles, là, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, évidemment, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Il se passe quelque chose d'incroyable là. Pour Zachée, il se passe quelque chose d'incroyable. Zachée, c'est un traître à la nation. Il travaille avec l'ennemi, il s'enrichit sur le dos de ses coreligionnaires. S'il y a bien quelqu'un qu'on ne regarde pas, c'est Zachée. Et en plus, permettez-moi de vous dire, parce que je partage une caractéristique avec lui, qu'il est de petite taille. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que ça donne quand je dois vous dire qu'on va prier pour les repas fraternels, mais il faut que je monte sur l'estrade, il faut que je prenne un micro, il faut que je fasse des grands gestes comme ça, parce que sinon, on ne me voit pas. Alors, je le vis bien, ça va. Mais Zachée, c'est typiquement le gars qu'on ne regarde pas. Et là, Jésus, c'est pas n'importe qui. Je veux dire, il y a des foules qui le suivent, des foules. Mais lui, il voit Zachée sur son arbre, là-haut perché. Et non seulement il le voit, mais il lui dit, « Maintenant, descends, parce que je dois venir chez toi. » Un juif. Mais personne ne fait ça. Et il y a des gens que personne ne voit. Jésus les voit. Jésus voit chacun d'entre nous. Jésus regarde chacun d'entre nous. Le plus méprisable d'entre nous, le plus méprisé, parce que personne n'est méprisable. Le plus méprisé d'entre nous, Jésus le voit. Il le regarde et il lui dit, « Descends, je viens manger chez toi. » Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout joyeux, évidemment, tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. Et en voyant ça, qu'est-ce que disent les gens ? Mais qu'est-ce que fait Jésus ? Mais qu'est-ce qu'il va faire chez cet horrible personnage, pour le dire gentiment et poliment ? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Il va manger avec les pécheurs, quoi. Il y avait du monde autour de lui, hein. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Il a choisi Zachée, quoi. Celui que personne ne regarde, celui que tout le monde méprise. C'est chez lui que Jésus va manger. Alors, ils s'en plaignent. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Ça y est, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà, métanoïa, retournement de cerveau. Jésus vient à la rencontre de Zachée, et Zachée, pouf, il est complètement retourné. Repentance. Voilà, nous dit Jean, ce qui prépare la venue du Messie. Alors, on peut se dire que ça, c'est le moment de la conversion. Un moment que, pour certains d'entre nous, on a vécu peut-être il y a déjà des dizaines d'années. Alors on se dit, ben, on n'est pas concerné. Voilà, ça c'est une prédication pour des non-chrétiens qui veulent se convertir. C'est vrai que c'est au moment de la conversion, mais la conversion c'est un mouvement dynamique qui concerne notre vie entière. La repentance, ce n'est pas seulement une fois au début de notre vie chrétienne. La repentance, c'est un mode de vie, c'est une hygiène quotidienne. Par la repentance, les vallées sont comblées, les montagnes et les collines sont abaissées, les passages tortueux deviennent droits, les chemins raboteux sont nivelés, et tous voient le salut de Dieu. Je crois que tous ceux qui étaient là quand Zachée a dit ah, « Je vais vous rendre au quadruple ce que je vous ai volé. » Ils se sont dit « Waouh ! » Alors ça ressemble à ça, le salut de Dieu ? Je crois qu'ils ont vu ça. Et sur ce terrain-là, sur le terrain de la repentance, Jésus peut arriver. À l'université d'Asbury, ce qui était frappant, alors il y a beaucoup de choses qui étaient frappantes et qui étaient encourageantes, je trouve, mais l'une de ces choses, c'est que les premiers rangs étaient remplis de gens à genoux. Les gens, et des jeunes pour la plupart, puisqu'on est dans une université, donc on est là sur essentiellement des gens qui avaient entre 20 et 25 ans, sont venus par centaines pour se repentir au pied de la croix, au pied de Jésus. Et quand quelqu'un fait ça, Jésus vient, et puis il pense, il soigne, il guérit. La vie de Zachée n'a plus jamais été la même. Parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui, enfin, reconnaît sa nécessité et son besoin d'un sauveur. Alors, je vais demander à l'équipe de louanges de me rejoindre. Et pendant qu'elle se prépare, je vais prier. Je vais prier maintenant pour que Dieu fasse naître en nous cette nécessité. Et puis, on prendra un dernier chant. Seigneur, c'est vrai, nous voulons plus de toi dans notre vie. Nous voulons de cette communion, nous voulons de ce ciel qui rejoint la terre, Seigneur. Nous aspirons à ça de tout notre être. Nous aspirons à ton retour pour que ton royaume s'établisse, Seigneur. Mais nous savons aussi que tu nous fais cette grâce de nous en faire goûter les prémices dès ici-bas. Et nous avons entendu ce matin que pour en goûter les prémices, Seigneur, tu nous demandes aussi de nous repentir pour préparer le terrain à ta venue. Seigneur, je te prie de faire naître en nous cette nécessité qui est réelle pour chacun d'entre nous, quel que soit le lieu où nous en sommes dans notre vie chrétienne, qu'on en soit au tout début ou que ça fasse 30 ou 40 ans peut-être que nous t'avons donné notre vie, nous continuons d'être des nécessiteux. Nous continuons d'avoir besoin de ta grâce, de ton pardon. Nous continuons d'avoir besoin de, non pas de lutter contre notre orgueil, mais que tu brises notre orgueil. Seigneur, je te prie de briser notre orgueil ce matin. Que nous puissions reconnaître notre besoin de toi. Que nous puissions nous repentir de notre péché. Seigneur, on est tous dans la même barque. Tu l'as dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ici non plus. Si nous sommes justes, c'est par ta grâce, c'est parce que tu nous as justifiés, toi. Mais nous savons bien que nous sommes pécheurs, nous. Nous savons bien que tu nous guéris, Seigneur, quand nous reconnaissons notre péché. Nous savons bien que tu nous guéris quand nous amenons à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Je te prie, Seigneur, pour qu'il en soit ainsi dans nos vies, aujourd'hui. Dès la fin du culte, dès maintenant, et que nous puissions témoigner les uns devant les autres de ton œuvre de libération, de guérison, de la manière dont tu penses nos plaies. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.
Je vous invite à vous lever pour répondre